J'ai beau être géographe, je travaille essentiellement sur des archives. Donc en fait, je travaille sur les archives avec des problématiques de géographe, avec des questions et des outils de géographe. Donc je fais de la géographie historique orientée essentiellement vers les paysages et la forêt. Hein, donc c'est une vieille tradition à Nancy, travailler sur le paysage, travailler sur l'évolution des paysages dans les temps historiques. Donc on a eu la présence de Jules Blache, on a eu la présence de Xavier de Planol, de Jean Peltre, de André Imbert, etc. Donc en fait toute une continuité de chercheurs qui ont travaillé donc sur l'évolution des paysages sur différents territoires, différentes spécialités. Donc moi je travaille essentiellement sur les milieux dits naturels. L'objectif étant évidemment de voir sur ces milieux dits naturels la part de l'homme dans la construction des paysages, donc précisément ce qui n'est pas naturel. Hein, donc tout ce qui est dû à la sylviculture, tout ce qui est dû aux activités diverses, y compris l'élevage dont on va parler, et qui peuvent contribuer à expliquer nos milieux, nos écosystèmes actuels, etc. Voilà, donc j'appartiens à une tradition qui a été représentée ici par Gérard Rouzard, qui a été représentée par pas mal de gens à l'échelle nationale. Et donc ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une problématique qui oppose en fait deux termes vraiment a priori opposés. D'un côté, la fermeture du milieu, c'est-à-dire le caractère forestier, et de l'autre, la pratique de l'élevage ou des activités liées de près ou de loin à l'élevage. A priori, ce sont deux choses totalement antinomiques, puisque si on veut avoir une forêt et une forêt qui produit du bois, il faut avoir évidemment une certaine densité d'arbres. Si au contraire on veut donner priorité à l'élevage, il faudra limiter cette densité d'arbres, lutter contre l'arbre, lutter contre la broussaille. Et donc a priori on a là une opposition, une tension qui apparaît entre deux activités différentes, produire du bois, hein, ce qui est traditionnellement une des grandes fonctions de l'espace forestier, et puis servir de support directement ou indirectement aux activités d'élevage. Donc comme je ne suis pas précisément historien, je vais me concentrer sur mes problématiques de prédilection. Donc on aurait pu aborder ce sujet à travers un prisme d'histoire sociale, d'histoire économique. En histoire du droit, il y a énormément à faire sur ce sujet. Et moi, je vais essentiellement travailler sur le paysage, donc une reconstitution des effets paysagers de l'élevage en forêt ou des pratiques liées à l'élevage en forêt. Donc je vais commencer par rappeler très rapidement les pratiques, sans aller trop loin, puisque justement mon but n'est pas de faire œuvre d'historien. Et puis ensuite je vais aborder ce qui est justement paysage. Comment peut-on essayer de reconstituer les effets de l'élevage sur le paysage forestier dans les siècles passés, hein, donc en essayant de remonter jusqu'au XVIIIe siècle, sans aller trop loin dans le passé. Et puis ensuite je vais évoquer, pour terminer, les patrimoines. Donc les pratiques, les paysages et les patrimoines qui sont hérités donc de plusieurs siècles d'activités d'élevage en forêt ou autour des forêts. Alors ces pratiques sont de diverses natures. La première étant bien évidemment un prélèvement direct des animaux en forêt. Avec tous ces termes qui sont toujours un petit peu flous, voire très flous, qu'on essaye en vain de définir avec précision, parce que justement, en fonction des régions, en fonction des périodes, etc., tous ces termes sont très évolutifs, et à mon avis, il serait vain de chercher à leur attribuer une définition précise qui puisse convenir dans toutes les occurrences, dans tous les documents d'archives qu'on va trouver. Donc, paxon, pâture, paisson, panage, paissonnage, donc tout ça, ce sont des termes qui vont être dans certains cas très précis et puis dans d'autres extrêmement, extrêmement flous. Par exemple, au 19e, l'habitude est de parler assez souvent, en tout cas, du pâturage quand il s'agit de bovins en forêt. On va parler de pâturage. On va parler de pacage quand il s'agit de moutons ou de chèvres, à l'époque où justement on cherche à les exclure totalement du milieu forestier. Et on va parler de panage quand il s'agit de porcs en forêt. Mais cette distinction est extrêmement floue et donc ne se retrouve pas toujours ni dans les ouvrages, ni dans les archives. Beaucoup moins connue, beaucoup moins facile à trouver dans les archives aussi, parce qu'il y a beaucoup moins de traces, de témoignages, de documents sur le sujet. La fauche en forêt, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des ressources fourragères dans le sous-bois. Donc on va faucher des herbacées, on va faucher tout ce qui peut servir de près ou de loin d'alimentation ou de complément alimentaire pour le cheptel, bovin, ovin, etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement peu documenté dans les archives, mais les forestiers en parlent, on a des témoignages assez intéressants qui nous montrent que les forestiers préféraient souvent voir les éleveurs aller faucher en forêt plutôt que les voir amener leurs animaux en forêt, parce qu'il était plus facile de contrôler quelqu'un qui va faucher que un troupeau d'animaux plus ou moins dociles. Troisième activité liée à l'élevage et qui se déroule en forêt, le soutrage. Donc là, il s'agit d'aller chercher en forêt essentiellement donc de la litière sous différentes formes. Alors le soutrage, c'est un terme qui s'applique à toutes les collectes de litière sans arracher le sol. Hein, donc on va collecter uniquement l'appareil aérien des plantes, donc des fougères très souvent, faucher des fougères en forêt pour en faire donc une litière. Très souvent, ce sont des feuilles, donc les feuilles mortes qui vont être exploitées en forêt. Et puis, bon, ça peut être différentes sortes de matériaux végétaux qui vont être collectés en forêt. Donc le soutrage, par exemple, si je prends l'exemple des Basses-Alpes, un témoignage de 1884, les forestiers se lamentent évidemment face à cette pratique qui est évidemment dévastatrice pour les écosystèmes. On nous dit « on dénude entièrement le sol, partout balayé avec soin, y compris avec des râteaux ». On imagine donc les dégâts du point de vue fertilité. Hein, on va exporter énormément d'éléments hors des écosystèmes forestiers. Et puis on imagine également les dégâts pour la régénération, c'est-à-dire donc les jeunes semis d'arbres au sol qui vont être arrachés au passage, qui vont être très fortement abîmés, etc., par ces pratiques. Et on a là encore là-dessus des témoignages assez impressionnants. Et les forestiers, à l'époque, parlent d'errements dévastateurs indignes d'un peuple civilisé. Au XIXe siècle, donc, le soutrage est en général extrêmement mal vu, en tout cas des forestiers. Et puis, quatrième pratique qu'on peut citer, c'est l'étrépage. Et là encore, il s'agit de collecter en forêt des matériaux qui vont servir de litière, ou en tout cas qui vont servir à la constitution de la fumure, mais cette fois en arrachant avec les végétaux une partie du système racinaire. On va arracher des mottes, on va arracher donc la partie supérieure du sol. Et donc là encore, à plus forte raison, on a des dégâts très forts, très importants sur les écosystèmes, avec très certainement donc un appauvrissement. Alors, exemple de l'omniprésence de ces différentes activités liées au pâturage dans les archives. Un premier exemple très simple. On peut regarder dans les archives forestières des registres qui sont des registres extrêmement intéressants, qui s'appellent des registres de martelage, dans lesquels on va noter toutes les exploitations forestières qui sont pratiquées. Quand l'exploitation se fait par assiette, c'est-à-dire qu'on va couper des coupes, on va exploiter des coupes en forêt, eh bien on va avoir un petit croquis d'arpenteur avec des cotes. Hein, et ici, en l'occurrence, on voit sur ce petit croquis de quatre coupes pratiquées dans une forêt lorraine qu'on a délimité en bas à droite de l'image un parc qui est en fait un parc à porcs. On a délimité la partie de ces exploitations où on va parquer les porcs qui sont donc admis au panage en forêt. Donc c'est quelque chose d'extrêmement courant dans les archives. Et on va trouver donc des indices extrêmement ténus de ce type dans différents types de documents. Deuxième exemple de pratique qui va illustrer donc la présence de l'élevage en forêt dans les siècles passés, la forêt des Ardennes, ou la forêt d'Ardennes, dans laquelle on a aujourd'hui soit des peuplements résineux, dominés par exemple par le pin, l'épicéa, etc., soit des taillis sous futaies dominés par le chêne. Ce qui paraît aujourd'hui un espace relativement naturel, bien que évidemment très marqué par la sylviculture, était autrefois le support de différentes activités, et pas seulement évidemment la récolte du bois, mais également des récoltes de différents autres types. C'est ce qu'on appelle le sartage, qui est un mode de ce qu'on appelle aujourd'hui la foresterie. Donc une façon de gérer la forêt qui est très particulière et qui montre bien la variété des fonctions de l'espace forestier jusqu'à assez récemment. En l'occurrence, ce sont des activités qui ont disparu au XXe siècle, hein, donc qui sont arrivées jusqu'à très, très, très avant dans le XXe siècle. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, sur cet espace qui est, je le répète, un espace forestier, on va d'abord commencer par brûler, écobuer, et constituer donc un espace relativement propre pour permettre pendant un an une culture de seigle, par exemple, qui va donc apporter une première récolte, évidemment destinée à l'alimentation, animale ou humaine, et puis qui va apporter également de la litière, donc premier lien avec l'élevage. Ensuite, on va voir se développer une végétation plutôt pionnière, hein, donc sur cet espace qu'on a à peu près complètement dénudé, à peu près complètement... à peu près complètement supprimé les arbres, au moins dans leur partie aérienne, on va voir se développer du genêt. Donc le genêt, lui également, va être récolté. Donc au bout de à peu près 4 à 5 années, on va récolter les genêts qui vont constituer soit une litière, soit du combustible, parce que le genêt, malgré son faible diamètre, était un combustible extrêmement apprécié, notamment pour les boulangers, pour allumer des fours, donc pour des raisons extrêmement très techniques. Donc ici, en l'occurrence, le sartage inclut un soutrage, hein, puisque ici, on récolte donc une litière en forêt. Petit à petit, donc, les arbres qu'on a exploités sur la coupe vont redonner ce qu'on appelle des rejets. Donc j'ai dessiné des souches ici que j'ai un peu surélevées par rapport à la terre. Normalement, elles étaient au ras du sol. Donc à partir de ces souches vont apparaître ce qu'on appelle des CP, c'est-à-dire donc des rejets de chênes qui vont donner un taillis. Et à partir de quelques années, sous ce taillis, on va pouvoir admettre les bovins, hein, ou d'autres troupeaux, ça dépend de à quelle période on se place. Normalement, à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est dès 8 ans après la récolte du seigle qu'on peut introduire les animaux, et donc on va se servir de cet espace forestier comme d'un espace de pâturage, avec les dégâts qu'on imagine évidemment sur le peuplement forestier lui-même. Enfin, au bout d'une vingtaine d'années, alors le cycle est plus ou moins long, mais au bout d'une vingtaine d'années, on va d'abord exploiter les arbres qui donneront du bois, de l'écorce utilisée pour la tannerie, et puis donc on va pouvoir écobuer et revenir au début du cycle, hein, donc à la récolte de seigle. Donc on voit bien ici l'interaction qui existe entre ce qui est agricole, proprement agricole, et ce qui est forestier. Hein, on a vraiment donc, on n'a pas vraiment d'opposition nette entre le finage et l'espace forestier, mais ça c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement connu. Donc premier exemple de conflit lié aux tensions qui peuvent exister entre d'un côté ceux qui voudraient une forêt productrice de bois, en l'occurrence au XIXe siècle, donc les forestiers, les agents des eaux et forêts, et ceux qui, de l'autre côté, voudraient défendre la place de l'agriculteur, de l'éleveur, sur ce milieu forestier. Et bien, c'est à partir de 1835, les forestiers vont vouloir conserver dans les coupes de ces forêts sartées ce qu'on appelle des baliveaux, c'est-à-dire des arbres qu'on va laisser pousser, qui ne vont pas être donc exploités tous les 20 ans, mais qu'on va laisser pousser, et qui vont être à la fois une réserve de bois d'œuvre, hein, donc de gros bois, et des semenciers pour permettre une bonne régénération du peuplement de chênes. Alors bien évidemment, si vous laissez des baliveaux dans un espace qui est censé être cultivé, vous allez énormément gêner l'activité agricole, vous allez quasiment empêcher la récolte du seigle. Donc évidemment, conflit, guerre qui n'a pas le terme est peut-être un petit peu outrancier, mais en tout cas, première opposition, premier exemple d'opposition entre les partisans de l'élevage en forêt et les partisans d'une forêt qui serait essentiellement dédiée à la production de bois. C'est une constante au cours de l'histoire des forêts que, d'un côté, on ait des forestiers qui vont essayer de limiter la place du paysan, la place de l'éleveur en forêt, et de l'autre, donc, bien évidemment, des populations qui vont chercher à garder leurs droits, à maintenir leurs droits, les droits donc au pâturage, les droits au soutrage, les droits à l'étrépage éventuellement. Donc apparaissent à l'époque deux termes très importants en histoire des forêts, la mise en défend des forêts. Une forêt qui est mise en défend, c'est une forêt dans laquelle le pâturage va être interdit par les forestiers, notamment parce que l'état de la forêt ne permet pas de subvenir aux besoins des troupeaux, et surtout, la forêt serait mise en danger par le pâturage, par la présence des bovins ou d'autres animaux. donc mises en défend, par opposition aux forêts qui sont dites défensables, qui sont celles qui sont ouvertes aux troupeaux. Et bien évidemment, la distinction entre une forêt en défend et une forêt défensable peut être vitale pour les communautés usagères, pour les éleveurs, puisqu'ils vont avoir donc des ressources pour leurs troupeaux extrêmement différentes. Et donc c'est extrêmement fréquent de trouver dans les archives des oppositions, des conflits en lien avec la définition des forêts défensables. Hein, les forestiers ayant toujours tendance à restreindre les forêts défensables de façon à limiter la présence des troupeaux dans des surfaces aussi réduites que possible. De la même manière, toujours au XIXe siècle et au XXe siècle, on va avoir donc une rétraction des droits, notamment des droits au pâturage, des droits au soutrage, sous l'effet donc d'une administration forestière qui va essayer donc d'expulser les paysans des forêts, qui va essayer d'expulser l'éleveur de la forêt, et donc les autorisations vont devenir absolument exceptionnelles et vont très souvent être justifiées par exemple une sécheresse, une récolte en foin particulièrement mauvaise qui obligerait les éleveurs à se tourner vers l'espace forestier, etc. C'est vraiment dans ces conditions que les forestiers vont être relativement ouverts aux droits des éleveurs et vont donner des autorisations. Ici, dans le Doubs, en 1907, les habitants demandent à pouvoir entrer en forêt. Ils ne sont pas usagers, ils ont besoin d'une autorisation de l'administration forestière. Télégramme envoyé de Paris. Donc la réponse du conservateur des forêts, en l'occurrence, qui était en déplacement. Le parcours dans les forêts domaniales de la Nièvre est non opportun. Les récoltes de fourrage sont très abondantes, ne justifient pas cette autorisation. Donc d'une manière générale, on nous dit comme ici, dans le discours des forestiers, que le pâturage, c'est le fléau des forêts françaises, en l'occurrence le fléau des forêts de la Corse. Mais d'une manière générale, c'est un discours qu'on va retrouver sur à peu près tout le territoire français. Et les forestiers vont nous apporter des témoignages qui sont particulièrement sévères. Ce témoignage-ci est un réquisitoire contre le pâturage en forêt. C'est un ouvrage qui est paru en 1900, qui a été donc écrit, rédigé par un forestier assez connu, un forestier donc de renom, qui s'appelle Alphonse Mathé, et qui va donc publier 172 pages contre le pâturage en forêt, pour essayer de démontrer les dégâts que causent les bêtes sur les forêts françaises, et pour essayer au contraire de montrer que, eh bien, économiquement, ce pâturage en forêt n'a pas lieu d'être. Et sa démonstration est véritablement économique, dans le sens où il va essayer de calculer la valeur fourragère des forêts, comparée à la valeur fourragère, par exemple, d'une zone herbagère. Hein, donc il nous fait véritablement une démonstration économique, mathématique, du mal que représente pour lui le pâturage en forêt. Cette phrase qui est extraite de son introduction est particulièrement évocatrice. Hein, une pratique ennemie de tout progrès que 20 siècles et plus ont condamné sans appel. C'est vraiment donc l'attitude normale, l'attitude habituelle des forestiers au XIXe et XXe siècle, mais évidemment c'était déjà le cas à l'époque moderne. Autre exemple d'ouvrage qui a marqué l'histoire des forêts, qui est un ouvrage extrêmement répandu parce qu'il a été distribué gratuitement dans les écoles. Ça s'appelle le Manuel de l'arbre. C'est un manuel qui a été édité par le Touring Club de France. Et là encore, il s'agit, et je pèse mes mots, d'une sorte de propagande forestière qui est opposée notamment à l'élevage en forêt et au pâturage en forêt. Ce que cherche à démontrer aux enfants Émile Cardot, parce que c'est un ouvrage qui est destiné aux enfants, hein, qui est destiné à être utilisé dans les écoles, c'est que le pâturage en forêt est destructeur d'un point de vue environnemental, que le pâturage en forêt amène une dégradation de la végétation, une dégradation de la forêt, donc des crues, donc une perte économique substantielle. Et le discours donc d'Émile Cardot se fait particulièrement, disons, outrancier, parce qu'il va montrer, par exemple, que si on a des déserts, des zones désertiques en Afrique du Nord, c'est parce qu'on a défriché. C'est parce qu'on a trop admis les troupeaux en forêt. Hein. Et donc, on fait des raccourcis assez improbables entre l'existence de ruines romaines ou d'époque romaine en Afrique du Nord et le défrichement des forêts et l'activité pastorale. Et évidemment, On nous dit, nous avons nous aussi nos déserts, ces grands plateaux d'Écos où sur de larges horizons, on ne voit ni un arbre, ni une touffe d'herbe. Donc on essaye de montrer que la France aussi est menacée par le désert et que le berger est, va amener une désertification ou risque d'amener des éléments des déserts en France, hein, ou a déjà amené des déserts en France. Donc c'est véritablement un discours extrêmement fort et extrêmement violent. Tout ceci ne constitue qu'une une approche extrêmement, extrêmement superficielle des choses. Hein, je ne veux surtout pas faire une histoire du pâturage en forêt. Et je vais essayer de trouver à travers les archives comment reconstituer les paysages qui, effectivement, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, étaient nés, hein, étaient comment dire, créés par cette activité, hein, avant qu'elle ne disparaisse presque totalement, d'une bonne partie de la France en tout cas, puisqu'on pourra en reparler. Il y a encore du pâturage en forêt sur des surfaces assez importantes aujourd'hui. Donc quel paysage issu de ces pratiques que j'ai très très rapidement brossées? Se pose tout de suite un problème de source. Les sources classiques auxquelles on va se confronter sont en général assez peu intéressantes. Les cartes et plans de l'époque moderne ou même du XIXe siècle sont extrêmement médiocres et ne vont pas nous apporter beaucoup d'informations sur les paysages qui sont créés par ces activités d'élevage en forêt. Exemple ici, un plan du XVIe siècle. On a un plan comment dire, représentatif de, de cette étape dans l'histoire de la cartographie, où on a une information véritablement paysagère. C'est-à-dire que l'information ne se limite pas à l'occupation du sol ou à l'usage du sol, mais qu'on voit en perspective ou en pseudo-perspective l'allure du paysage, celle qui pouvait se présenter, hein, si on imaginait donc une espèce de vue d'avion, mais du XVIe siècle. Mais malheureusement, c'est vraiment difficile d'apporter, à partir de ces documents, des informations véritablement fiables. On voit des arbres, on a l'impression qu'ils sont véritablement proches les uns des autres et qu'on a une forêt dense. On a du mal à imaginer, sous ce sous-bois relativement dense, des ressources pastorales utiles. On a du mal à imaginer un élevage en forêt dans ce type de paysage. Mais peut-on vraiment y croire ? Est-ce que c'est une représentation conventionnelle ou une représentation véritablement de ce qu'on aurait vu sur le terrain ? C'est évidemment une question très difficile à trancher. Et donc, a priori, ce sont des sources qu'on va plutôt écarter, hein, de ce type d'informations. Même au XVIIIe siècle encore, on va trouver ce type de représentation très paysagère. Hein, ici, un plan qui, pour l'époque, est extrêmement archaïque, hein, de 1724, qui nous montre, là encore, une forêt en apparence extrêmement dense, hein, avec donc des troncs extrêmement, extrêmement proches les uns des autres. Mais là encore, information difficilement crédible, hein, vraiment une information sur laquelle on peut difficilement se pencher. Donc on va chercher différentes autres sources. Alors parmi ces sources, les témoignages écrits sont souvent très intéressants. Et on va donc essayer de piocher ici et là des informations très lacunaires, de manière à essayer d'obtenir une reconstitution aussi, comment dire, aussi fiable, aussi exacte que possible, des paysages de cette forêt parcourue par les troupeaux. Alors d'abord à une grande échelle, c'est-à-dire vraiment à l'échelle du paysage très proche du sous-bois, hein, la forme des arbres, etc. Exemple de témoignage qu'on peut avoir justement, c'est extrait de ce réquisitoire d'Alphonse Mathé, qui est publié en 1900, et dans lequel l'éminent forestier Comtois nous dessine de manière extrêmement méticuleuse les dégâts que peuvent causer les animaux sur les arbres, les jeunes arbres qui ont été abrutis. Donc à gauche, des arbres qui en sont réduits à des formes extrêmement, comment dire, extrêmement rabougries, sans aucune valeur économique, donc par un pâturage un petit peu trop intensif. Et puis à droite, cette fois le forestier a sorti ses connaissances de naturaliste pour faire une représentation extrêmement précise des nécroses, donc des conséquences extrêmement fines du pâturage sur le développement des arbres. Il nous fait une étude véritablement naturaliste des dégâts de l'abrutissement sur les arbres, les jeunes arbres en forêt. Donc ce sont des choses qu'on va retrouver aujourd'hui, pas forcément dans les forêts où on a de l'élevage, mais ces formes-là sont extrêmement courantes dans les forêts qui sont très riches en cervidés. Ici, en l'occurrence, les forêts des basses Vosges graisseuses, où on a une densité de grands mammifères qui est extrêmement importante, qui est même dramatique pour, dans certains secteurs, pour le maintien de la forêt. Et on va retrouver effectivement ces formes arrondies, ces formes un petit peu, comment dire, ces formes de taupières, qui avaient été décrites par Mattei en 1900 et qu'on retrouve très facilement aujourd'hui dans certaines forêts. Deuxième conséquence paysagère du pâturage, c'est évidemment la pression des animaux, la pression de la dent des animaux sur la partie basse de la forêt, sur les strates basses qui sont à portée de dent et sur lesquelles donc une grande partie de la biomasse va être supprimée. Et ce qu'on peut voir sur certains documents, j'en ai pris un ici qui est particulièrement révélateur, ce sont des forêts où on n'aura pratiquement aucune trace de vert, aucune trace donc de feuilles, aucune trace de sous-bois herbacé, en dessous de 1m20, 1m50, ça dépend à quels animaux on a affaire. Donc finalement un sous-bois extrêmement appauvri dans la strate inférieure. Donc ici, évidemment, c'est la forêt de Fontainebleau, donc c'est un cas un petit peu particulier, hein, mais c'est quelque chose qui est également décrit dans les archives du 19e siècle ou dans les descriptions un petit peu affolées des forestiers, hein, où on nous explique que effectivement la strate inférieure de la forêt est ruinée, le sous-bois est ruiné, la régénération bien évidemment ne se fait plus, donc ces arbres sont condamnés à vieillir sans avoir de descendance si la pression pastorale reste aussi intense. Conséquence, dans les registres du XVIIIe siècle, les registres de forestiers du XVIIIe siècle, on nous décrit comment on pratique le taillis sous-futé au XVIIIe siècle dans une forêt lorraine, par exemple. On nous donne des informations extrêmement chiffrées, extrêmement précises sur la densité de baliveaux, la densité des CP, bref, des informations quantifiables sur la densité du couvert forestier. Et ce qui apparaît, c'est que très souvent, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce ne sont pas les strates supérieures, c'est-à-dire les gros arbres qui manquent dans ces forêts qu'on dit surexploitées, dans ces forêts qu'on dit assez souvent appauvries par les forges, par exemple. En réalité, à lire les registres de martelage du XVIIIe siècle, la strate supérieure se porte plutôt bien. Les forestiers ont assez souvent tendance à réserver un grand nombre de gros arbres parce que tout simplement pour eux c'est la définition d'une belle forêt, d'une forêt en bonne santé, c'est la définition d'une forêt riche en bois utile. Par contre, le problème se trouve dans les strates inférieures. Les CP du taillis sont extrêmement abrutis, donc le taillis se développe très mal. Les jeunes arbres, la régénération au sol se fait très mal du fait de la pression pastorale. Et donc, assez souvent, on a une forêt relativement riche dans ses strates supérieures et extrêmement pauvre dans ses strates inférieures. C'est ce qui a été démontré par André Corvol dès les années 80, c'est ce qui a été démontré par Jérôme Buridan ou moi-même dans ma thèse. Assez souvent, contrairement à ce qu'on imagine, la forêt ruinée du XVIIIe siècle, c'est une forêt qui est assez riche en gros bois et très pauvre dans ces strates inférieures, dans la régénération et dans le taillis. Alors ce que j'ai représenté ici à gauche, c'est ce qu'est un taillis sous-futé au XVIIIe siècle. On a des arbres qui sont des baliveaux, terme que j'ai évoqué tout à l'heure, donc des arbres qui sont destinés à atteindre un certain âge, à donner des gros bois. Ces arbres, en général, à partir du moment où ils ont atteint une certaine taille, ne craignent rien de la part du pâturage, parce que leur masse, leur hauteur les protège naturellement. Le problème se trouve au niveau du taillis, c'est-à-dire de la partie de la forêt qui est destinée à être coupée tous les 18 ans, 20 ans, 25 ans, etc., et qui, elle, se trouve pendant la plus grande partie du cycle du taillis sous-futé, à portée des animaux, puisqu'au ras du sol, et donc va se retrouver exposée à l'abrutissement et exposée à l'appauvrissement dans le système, disons, sylvo-pastoral de l'époque. Le résultat, donc, c'est ce que j'ai essayé de représenter sur le schéma en bas à droite. Une forêt qui est relativement riche dans ces strates supérieures, mais sur laquelle la pression pastorale est le problème numéro un pour les forestiers du XVIIIe siècle. Donc c'est un problème qu'on a su contourner dans certaines régions. J'y reviendrai donc dans la troisième partie de mon exposé. Maintenant, changeons encore d'échelle. On a vu ce qui était dans le détail, donc la forme des arbres. On a vu donc les différentes strates, hein, l'allure de ce paysage à travers les différentes strates basses et hautes de la forêt. Et puis, si on regarde peut-être d'une manière un petit peu plus éloignée, on va trouver bien évidemment des forêts qui seront plus ou moins riches, plus ou moins denses, car plus ou moins attaquées par les troupeaux, plus ou moins appauvries dans certains cas, et très fortement menacées par la lande, par la réduction en lande, notamment sur les bordures ou sur les sols les plus pauvres, là où les arbres ont, ont des stations, des sols sur lesquels ils auront du mal à se développer. Voici une configuration extrêmement classique dans les cartes et plans des XVIIe, XVIIIe siècles notamment. Une forêt dont le cœur est relativement préservé. Quand je dis relativement, ça veut dire qu'on peut avoir évidemment des troupeaux qui se promènent dans ces parties centrales, mais la densité pastorale n'est pas telle qu'elle mettrait à mal le renouvellement de la forêt, la régénération, etc. Par contre, sur les bordures, énormément de friches, de paquis, de saltus qui sont issus de la dégradation de la forêt, donc pâturage, soutrage, etc., et qui sont notamment entretenus par le feu, parce que c'est une constante dans ces paysages à vocation pastorale, c'est un entretien par le feu, y compris dans les régions les plus humides, y compris dans les Vosges jusqu'au XIXe siècle. Le résultat, c'est que très souvent, les périphéries des massifs forestiers sont particulièrement dégradées, comme on le voit ici. On a donc une forêt au XVIe siècle qui va être cantonnée, c'est-à-dire partagée entre son propriétaire et les communautés qui disposent de droits d'usage, donc de droits au pâturage, au soutrage, etc. Bien évidemment, on va accorder aux communautés toutes les périphéries qui sont dégradées et qu'elles vont réduire donc en communaux, tandis que le propriétaire, lui, va essayer de se réserver la partie centrale, donc le cœur des massifs, sur lesquels on a donc des richesses en bois qui sont relativement préservées. Mais ceci donc ne reste qu'une première approche. En réalité, si on regarde les cartes et plans des XVIIIe siècle, et cette fois je vais aborder l'exemple lorrain, on va s'apercevoir qu'il y a une relative continuité entre le saltus et la forêt. Et donc on va voir sur un finage donné des ensembles qui sont mi-forestiers, mi-pâturés, mi-pastoraux, et dans lesquels on a un petit peu de mal à faire la différence entre ce qui est purement forestier et ce qui est saltus. Alors, bien évidemment, ici, sur ce document, ça apparaît très bien. On a ici une périphérie de finage. En fait, on est entre différents bancs. Hein, on est entre ce qu'on appelle des bancs, c'est-à-dire des finages, si on veut simplifier, dans la Lorraine du XVIIIe siècle. Et typiquement, on est sur ces périphéries qui sont un petit peu floues, qui sont en cours de colonisation au XVIIIe siècle, par un finage, en l'occurrence ici, occupé par les champs d'Openfield. On a une représentation conventionnelle des champs lanières organisés en quartiers hein, qui apparaissent, et puis donc tout cet espace flou qui entoure d'une manière générale les finages, et sur lesquels on aura soit de la forêt, soit du saltus, soit un paysage flou, mixte entre les deux. Et on s'aperçoit ici qu'on a donc un massif qui a été dégradé dans sa partie centrale, qui est encore en partie boisé, en partie piqueté d'arbres, mais qui est réduit en paquis, donc en saltus. Donc entre deux massifs forestiers relativement préservés, mais on s'aperçoit en regardant à gauche de l'image, c'est au nord dans la réalité, le bois de Hull, on s'aperçoit qu'il n'y a eu aucun abornement, il n'y a pas eu de délimitation faite entre ce qui est forestier et ce qui est pastoral, et donc on a une lisière qui est menacée par menacée de dégradation. On a une lisière sur laquelle on s'aperçoit qu'on a un petit liseré rouge extrêmement fluctuant, hein, et donc une espèce de continuité entre cet espace purement sylvicole et presque purement sylvicole et cet espace plutôt pastoral, mais lui aussi encore en partie arboré. En réalité, ce continuum entre Saltus et Forêt s'étend jusqu'au village dans certaines configurations. Pourquoi? Tout simplement parce que, bien évidemment, les troupeaux qui vont aller pâturer soit le Saltus, soit la Forêt, ou les deux, puisqu'il est souvent difficile de faire la différence, vont évidemment partir du village. Et dans certains cas, on va essayer de ménager pour eux, non pas des chemins, non pas des routes, mais un saltus linéaire qui leur permettra de se déplacer tout en broutant, quand c'est possible. Donc en fait, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu au dry du sud de la France, et qui vont, donc des communaux, qui vont constituer des espèces de chemins pour les vaches, pour les troupeaux, qui feront 30 mètres de large, 40 mètres de large, quelquefois plus, et qui vont donc apparaître en étoile autour du village. Donc ici, c'est un plan de remembrement du début du XVIIIe siècle. Et à partir du village, au-delà du petit pont qui permet de passer donc le ruisseau, c'est le chemin, ce qu'on appelle une passée dans la Lorraine du XVIIIe siècle, le chemin qui va mener le troupeau communal vers la forêt. Et on s'aperçoit donc cet espace un petit peu flou, avec donc des figurations qui font penser un petit peu à une végétation mal maîtrisée, une végétation herbacées ou de broussailles, donc une espèce de dry qui va donc se diriger, permettre donc le déplacement du troupeau vers la forêt. Si on représente les choses en termes de carte d'occupation du sol, on s'aperçoit qu'on a donc à travers les finages lorrains du XVIIIe siècle des passées, donc des chemins très élargis qui permettent le déplacement commode du troupeau communal vers les forêts. Alors ceci, donc ici à Haut-Clocher, d'après un plan de remembrement, avec au moins trois de ces passés. Alors je précise qu'au nord, on a un bois, et au sud également, à Oberwald, on a également un bois, et donc on a ici une espèce de réseau constitué par ces saltus linéaires qui permettent donc le déplacement des troupeaux. En apparence, ici, on a une opposition entre ce qui est saltus et ce qui est boisé. Si on regarde de près les plans du XVIIIe siècle, on s'aperçoit qu'en réalité, le paysage est un petit peu flou, et on a, entre ce qui est véritablement saltus et ce qui est forestier, des espaces de transition dans lesquels on a donc un paysage mi-saltus, mi-forêt, un paysage de parc, comme on dirait aujourd'hui, qui est à la fois pastoral et forestier, ou très probablement issu de la dégradation d'une forêt. Donc si on résume un petit peu tout ça, il faut en fait imaginer la forêt comme issue d'un ensemble, d'un continuum entre le saltus qui est constitué, le saltus proprement dit, qui est constitué par les pâturages, donc fortement déboisé, fortement réduit à l'état herbacé, et puis la forêt elle-même, et puis donc un paysage flou sur lequel les forestiers auront l'obsession de placer des limites précises, avec des bornes, avec des fossés qui permettront de délimiter d'un côté le pastoral, de l'autre le sylvicole. Le résultat, c'est qu'en forêt, il faut imaginer bien évidemment une forêt extrêmement inégalement boisée. Quand on regarde par exemple les chiffres, les taux de boisement qu'on essaye de reconstituer pour le XVIIIe siècle, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de pincettes, puisqu'une surface de forêt, c'est pas une surface boisée. Sur une surface cartographiée ou enregistrée comme forêt, on aura énormément de ce qu'on appelle à l'époque des vides ou des chambres, c'est-à-dire des clairières plus ou moins vastes, qui vont être en fait réduites à l'état de landes, et qui peut être intéressant d'essayer de cartographier. Malheureusement, cette cartographie, elle n'est pas offerte par les archives. Il est très rare qu'on ait, comme ici, une représentation, plus ou moins fiable, d'une forêt inégalement boisée, d'une forêt inégalement dégradée, etc. C'est vraiment très difficile d'obtenir une information fiable à partir de ce type de document. Donc il va falloir essayer d'aller chercher ailleurs pour essayer de comprendre à quoi ressemblait cette forêt pâturée, cette forêt ouverte, mi-sylva, mi-saltus, qu'on aurait pu trouver si on avait de meilleurs documents. Exemple emblématique, la forêt de Fontainebleau. Bien évidemment, c'est un cas particulier, c'est une forêt très particulière avec un milieu extrêmement spécial, les milieux sableux pas forcément très favorables à l'arbre, mais la forêt de Fontainebleau au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'est en grande partie une lande. Essayer de cartographier ça, c'est évidemment, à partir de ce document, extrêmement difficile, extrêmement, comment dire, extrêmement frustrant. Quant aux représentations issues de la peinture de paysage, elles sont guère plus intéressantes que les archives. Elles vont nous apporter donc une image extrêmement, comment dire, extrêmement corrigée, extrêmement polluée par l'imaginaire. Hein, en termes d'histoire du paysage, si on cherche à retrouver l'aspect matériel de ces pratiques et de ces paysages dont je parlais, des documents comme celui-ci vont finalement nous apporter assez peu. Hein, donc, si ce n'est une confirmation du fait que la forêt est très souvent trouée, très souvent ouverte, etc. Enfin, dernière source possible, Alphonse Maté, là encore, nous explique comment s'organise le pâturage en forêt, comment font les bergers pour se déplacer en forêt, et il nous montre en réalité qu'à l'intérieur d'un massif forestier, on va avoir là encore un réseau, un continuum qui permettra le déplacement des troupeaux dans une journée à travers donc différentes clairières reliées par des couloirs ouverts plus ou moins larges à travers un massif forestier. En l'occurrence, il nous dessine ici des clairières qui sont reliées entre elles, pour reprendre ces termes, par de simples couloirs, puis par des sentiers et enfin par de grands chemins. Et donc il faut imaginer comme ça des circuits de déplacement des troupeaux comme on en a dans les alpages, comme on peut en avoir dans d'autres types de milieux. Alors quelle solution avons-nous pour retrouver ce paysage ? Premier exemple, tentative de cartographie des vides dans la forêt d'Orléans, qui est donc la plus grande forêt domaniale française, un énorme massif forestier, aujourd'hui occupé essentiellement par le chêne et par les résineux. Ce qu'on a essayé de faire ici sur la forêt d'Orléans, dans le cadre d'un projet de recherche commun entre mon université et le CEMAGREF, enfin l'ancien CEMAGREF, c'est une reconstitution justement des anciens vides pour essayer de retrouver la trace dans les écosystèmes actuels de ces anciennes clairières, donc de ces activités pastorales, puisqu'en l'occurrence, c'est pas le milieu, c'est pas l'écologie, les sols, etc., qui expliquent la présence de trouées dans la forêt, ce sont les activités humaines. Comment est-ce qu'on a fait ? Eh bien, il s'agit d'aller chercher au XIXe siècle, avant la fermeture de cette forêt, avant les reboisements qui vont supprimer ce saltus intraforestier, les traces des vides, à travers notamment les documents d'aménagement. Les documents d'aménagement des XVIIe, XVIIIe et du début du XIXe siècle sont inutilisables pour cela, parce qu'ils sont extrêmement, en général, extrêmement peu intéressants, extrêmement peu documentés, les informations sont insuffisantes. Par contre, à partir du milieu du XIXe siècle, on a parcelle par parcelle les vides qui sont enregistrés, qui sont mesurés, et donc on a une quantification des vides dans la forêt d'Orléans, cartographiable, quantifiable, à partir de ce type de document, ici donc en l'occurrence de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et grâce aux plans qui sont joints à ces documents d'aménagement, on peut bien évidemment faire une très belle reconstitution des vides sous SIG, qu'on a essayé de faire ici donc sur une grande partie de la forêt d'Orléans. Le résultat, malheureusement, est assez peu satisfaisant dans la mesure où on a simplement une surface de vide par parcelle. C'est-à-dire qu'on a une cartographie à l'échelle parcellaire qui donc offre un résultat visuellement assez peu intéressant. Ce sont en réalité, plutôt que la cartographie, les chiffres qui sont véritablement frappants. Donc sur l'exemple du cantonnement de Châteauneuf, à la fin du XIXe siècle, donc d'après les documents d'aménagement de cette date, on a au total 7002 hectares enregistrés comme forêt. Sur ces 7002 hectares, on a presque 2500 hectares de vide. Ce qui fait un bon tiers de la forêt ruinée, réduite à l'état de lande, notamment par le pâturage, en tout cas c'est l'explication apportée par les forestiers. Donc une très forte dégradation de la forêt et un espace extrêmement ouvert dans lequel on fait entrer encore à peu près une tête de bétail par hectare et par an. Alors évidemment, c'est en termes de chargement instantané, c'est énorme, mais malheureusement, on ne sait pas combien de temps ces bêtes restaient en forêt. Est-ce que c'était quelques jours ? Est-ce que c'était plusieurs semaines, etc. Dans quelle partie de la forêt, ça, malheureusement, les archives ne le disent pas. Donc, il est difficile d'avoir, de calculer des chargements, donc de connaître vraiment l'intensité du pâturage dans cette forêt. Deuxième exemple de tentative de reconstitution. Il s'agit cette fois des basses Vosges, sur lesquelles on a une véritable marée forestière, un espace en fait très fermé, trop fermé, puisqu'on cherche aujourd'hui à réouvrir les fonds de vallée qui ont été trop reboisés. Et il se trouve que dans ces forêts, on avait autrefois des chaumes, ce qu'on appelle dans les Vosges des chaumes, c'est-à-dire donc des pâturages d'estive, donc des ouvertures destinées au pâturage, un pâturage d'estive, qui devait se trouver sur les sommets de ces plateaux gréseux. Ces chaumes ont totalement disparu aujourd'hui. Ils ont été en partie recréés par des accidents climatiques, par Lothar, l'ouragan Lothar, par des accidents sanitaires. Mais il faut essayer, donc on a cherché à reconstituer ici l'emprise de ces anciennes ouvertures en forêt qui étaient destinées au pâturage. La première solution est évidemment de se tourner vers les documents cadastraux du début du XIXe siècle. Donc plan par masse de culture, cadastre dit napoléonien, pour essayer de retrouver l'emprise de ces chaumes. Et par chance, contrairement à la forêt d'Orléans, ces espaces pastoraux sont représentés, d'une manière plus ou moins fiable, sur les documents cadastraux. Et donc on peut voir apparaître, en faisant une simple cartographie de l'occupation du sol, deux simples clairières comme ici sur la commune d'Alarmont. Donc ici ce sont les sommets, les buttes, qui sont déboisés et qui sont donc occupés par le saltus, ou tout simplement des crêtes qui ont été à peu près complètement rasées et donc réduites à l'état d'estive. À cette époque, donc, c'est juste avant les grands reboisements du XIXe siècle. Mais si on regarde la différence qui existe entre le plan par masse de culture et le cadastre napoléonien, il se trouve qu'on a un petit peu un doute sur la fiabilité de cette représentation. Surtout quand on a l'habitude d'utiliser le cadastre en histoire du paysage, on sait qu'il y a des informations qui sont très fiables sur le cadastre et d'autres qui le sont moins. Et l'opposition entre forêt et milieu ouvert fait partie des informations sur lesquelles on peut difficilement trancher à partir du cadastre. Là encore, la cartographie des ouvertures va se faire essentiellement à partir des documents d'aménagement du 19e. À l'époque où les forestiers, justement, essayaient de supprimer ces estives, essayaient donc de refermer le milieu pour obtenir une forêt productrice de bois dans laquelle les activités d'élevage ou agricoles n'auraient plus leur place. Alors on obtient ce type de carte, là encore à une échelle parcellaire un petit peu affinée sur certains points, sur lesquels on va essayer donc de retrouver la trace des chaumes. Certaines existent encore, mais d'autres apparaissent indirectement. Par exemple, de très jeunes plantations d'épicéas, ce sont très souvent des chaumes qui ont été reboisées dans les années précédentes. Donc on a des indices comme ça qui nous permettent, après donc affinage des informations, de cartographier... J'utilise ça, voilà, de cartographier l'emprise des anciennes chaumes de manière relativement fine, y compris sur SIG, c'est-à-dire donc avec des informations qu'on va pouvoir utiliser dans des études écologiques sur les milieux actuels. Donc qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce paysage pastoral en forêt, de ce paysage donc où l'arbre et l'animal se sont disputés donc les lieux? Sont des patrimoines sur lesquels on se penche beaucoup aujourd'hui parce que justement on tend à revaloriser aujourd'hui la valeur de ces saltus intraforestiers. On réouvre aujourd'hui les forêts, notamment au nom de la biodiversité, parce que ces ouvertures en forêt sont souvent des milieux extrêmement intéressants pour soit une flore très, très particulière, soit une faune inféodée au milieu ouvert intraforestier. Donc en général, pour des raisons de biodiversité, quelquefois pour des raisons plus culturelles, on va réouvrir certaines forêts, entretenir les landes qui existent encore, et puis dans certains cas, détruire les reboisements que les forestiers s'étaient échinés à réussir tant bien que mal au XIXe siècle ou au XXe siècle. Donc ici, en l'occurrence, la forêt de Pimpon, donc la forêt dite de Brocéliande, qui est un cas très particulier. Bon, je ne vais pas approfondir cet exemple. Et je vais montrer à travers deux patrimoines différents à quel point il existe encore aujourd'hui des traces d'un patrimoine culturel et paysager hérité de la présence de l'animal en forêt. Premier exemple, les arbres têtards du Pays basque. C'est typiquement un exemple de paysage sylvo-pastoral, puisque l'objectif de la gestion forestière traditionnelle dans une grande partie du Pays basque, côté français ou côté espagnol, jusqu'à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, c'était justement de concilier sur les mêmes parcelles différentes activités. Premièrement, il fallait permettre le soutrage. Le soutrage, parce qu'on avait besoin de litière très abondante pour les animaux. Une des cultures les plus importantes au Pays basque, c'était le maïs. Très difficile d'obtenir une litière utilisable à partir du maïs. Donc, il fallait bien utiliser des végétaux, notamment forestiers, en guise de litière. En l'occurrence, c'est la fougère qu'on allait rechercher en forêt. Deuxième fonction importante pour les milieux forestiers, évidemment, le pâturage. Troisième fonction importante, des arbres dont on allait tirer essentiellement des bois de petit diamètre. On avait besoin de bois pour le charbonnage, hein, des bois destinés au charbon, notamment pour les forges, donc de petit diamètre, et également des écorces pour la tannerie. Comment faire pour concilier ces trois fonctions ? Et bien évidemment, si vous avez un fort prélèvement par le soutrage et si vous avez une forte présence d'animaux en forêt, vous ne pouvez pas faire un taillis comme on aurait fait dans une grande partie de la France, tout simplement parce que les rejets, donc les CP, hein, les rejets de chênes ou de hêtres, vont être très rapidement détruits par l'activité agricole, soit par les animaux, soit par les paysans eux-mêmes. Conséquence, on va surélever le taillis, on va constituer ce qu'on appelle un taillis perché, et les arbres, au lieu de les couper au ras du sol, on va les exploiter au-dessus donc d'une certaine hauteur, ce qui permettra aux animaux et aux éleveurs en recherche de soutrage de circuler en forêt sans pour autant abîmer le patrimoine forestier. Donc ce qu'on appelle les hêtres têtards ou les chênes têtards, dans certains cas ce sont des hêtres ou des chênes, plus rarement d'autres essences, sont des arbres qu'on va couper à peu près tous les 10-12 ans, mais je vous ai mis une fourchette un peu plus vaste, toujours à la même hauteur, hein, et bien évidemment le fait de couper l'arbre à cette hauteur ne va certainement pas le mettre en danger particulièrement, au contraire, ça peut prolonger sa durée de vie, exactement comme les arbres têtards du bocage de l'ouest de la France. Mais ici, c'est bien une activité forestière. Ce sont des arbres qui sont présents tous les 6 mètres, tous les 7 mètres, avec une densité d'arbres relativement importante. Alors, bien évidemment, donc, la repousse se fait à 2 mètres du sol, donc hors de portée des animaux. Alors, il se trouve que ces pratiques ont perdu tout leur intérêt avec l'abandon de l'utilisation du charbon de bois dans les forges, avec l'abandon de l'utilisation des écorces dans la tannerie, avec la diminution du pastoralisme. Et donc, on a aujourd'hui un paysage fossile avec des arbres têtards qui sont vieillis, avec une conformation très pénalisante pour leur maintien, parce qu'on a des branches qui vont partir à 90 degrés à l'horizontale et qui vont casser très facilement. Donc en fait, on a un paysage qui est magnifique, qui est très recherché par les touristes, mais un paysage qui est fossile et qui ne se renouvelle plus, hein, qui est en voie de vieillissement, en quelque sorte de disparition. On a beau avoir donc des forêts magnifiques avec des arbres, des anciens arbres têtards qui prennent des formes tout à fait majestueuses, on a en fait un patrimoine culturel et paysager qui menace de disparaître et qu'on va essayer de faire renaître dans différents sites pour différentes raisons. Je vais prendre l'exemple de la forêt de Sarre, donc la forêt communale de Sarre du côté français, donc on est en plein Pays basque français dans le Labourd, tout près de la frontière espagnole. Et on a ici typiquement ce paysage de taillis perchés qui est vieilli, c'est-à-dire qu'on devrait voir ici des branches qui ne dépassent pas les 10 cm de diamètre ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, les pratiques d'étêtage ont été abandonnées et donc on a des arbres qui prennent des formes assez spectaculaires, mais on voit bien qu'ils ne sont plus exploités. Le pastoralisme a reflué et on a une forêt ici qui vieillit, des arbres qui menacent donc de très rapidement disparaître. Si rien n'est fait. Donc le résultat, c'est qu'on a essayé de mettre en place une restauration écologique et paysagère, avec notamment pour objectif de conserver l'entomofaune propre à ces vieux têtards, propre à ces vieux hêtres et chênes têtards, à Sarre c'est plutôt du chêne, hein. D'une part en restaurant les têtards eux-mêmes, c'est-à-dire en coupant les branches trop grosses et en essayant donc de reprendre la pratique de l'étêtage périodique des arbres, avec un certain succès, puisqu'on voit ici, enfin on le voit plus ou moins bien sur la photo, ces arbres reprennent, même après 50 ou 100 ans d'abandon, un arbre peut à nouveau être étêté. Et puis, c'est beaucoup plus important, on a assuré le renouvellement de ce paysage en plantant tous les 7 mètres ou à peu près un futur têtard qui va donc, au bout de quelques années, donc être entretenu comme on l'a fait pendant des siècles, sans pour autant empêcher le pastoralisme. Il y a toujours des moutons, des petits chevaux sauvages, des potiokaks, etc., qui vont fréquenter cette forêt, et sans empêcher la récolte de la fougère, en l'occurrence la fougère aigle, qu'on voit très bien sur cette photo. Donc le soutrage peut continuer à se faire dans ce milieu forestier très particulier. Très rapidement, la même chose en Grande-Bretagne. On a en Grande-Bretagne des forêts sur lesquelles on a à peu près les mêmes problématiques que dans les forêts basques, c'est-à-dire des forêts très marquées par l'élevage, très ouvertes et très fortement donc marquées par l'abandon du pastoralisme, l'abandon des activités traditionnelles. Ici, en l'occurrence, la forêt de Sherwood, hein, la forêt de Thoresby, qu'on a identifiée comme étant la forêt de Sherwood, et sur laquelle on avait un problème, c'était la transformation de ces forêts en, je vais accélérer, magnifique plantation de pins ou d'épicéas de Sitka, qui évidemment ne sont pas tout à fait la représentation idéale qu'on a de la forêt de Robin-des-Bois. Donc là encore, comme dans la forêt de Sarre, on a mis en place une opération, des opérations très spectaculaires, très coûteuses, de reconstitution paysagère, à la fois pour, dans une optique de conservation de la biodiversité, mais également pour permettre de recréer un paysage qui plaise un petit peu plus aux milliers de touristes qui viennent chaque année admirer les arbres où Robin des Bois est censé avoir, censé être grimpé avec ses camarades. Donc ici le Major Oak, qui est un des arbres les plus connus de Grande-Bretagne, hein, qui est justement un ancien têtard extrêmement spectaculaire, conservé avec beaucoup de mal par les gestionnaires de cette forêt. Qu'est-ce qu'il a fallu faire ? En réalité, l'avantage de ce site, c'est que quand on a replanté ces espaces et qu'on les a enrésinés pour en faire des plantations à destination de l'industrie, on a laissé les gros arbres, tout simplement parce qu'ils auraient coûté trop cher à abattre. C'est en tout cas une des raisons essentielles. Mais perdre des journées de bûcheronnage simplement pour un gros arbre de 250 ou plus de diamètre, c'était évidemment hors de question. Donc, le paysage qu'on a à la fin du XXe siècle, c'est un paysage où des gros vétérans, notamment des gros chênes têtards, sont noyés au milieu de la plantation résineuse implantée au moment où on a, on a orienté cette forêt vers une production à visée industrielle. Bien évidemment, le travail a consisté à éliminer les résineux, mais pas d'un seul coup, parce qu'on aurait eu un choc fatal à l'arbre si on l'avait trop rapidement découvert, si on l'avait trop rapidement ennoyé dans une lumière qu'il a perdu l'habitude de voir. Donc on a créé des clairières de manière très progressive autour de ces vieux vétérans pour réouvrir progressivement la forêt autour de chaque arbre jusqu'à aboutir à un paysage un petit peu ambigu où on a des vieux arbres têtards au milieu d'un paysage aujourd'hui un petit peu désolé, hein, en raison des récents déboisements. Donc je passe très rapidement sur ces questions. Juste pour arriver à ma conclusion, en réalité, ces restaurations paysagères et écologiques pourraient sembler relativement consensuelles, parce qu'elles répondent à un besoin environnemental, elles répondent à un besoin culturel de reconstitution d'un certain paysage, d'un certain idéal de forêt. En réalité, ce qui est apparu, c'est que, on a eu des pétitions, des manifestations, des gens qui sont allés s'enchaîner aux arbres pour justement éviter ces déboisements, aussi consensuels qu'ils puissent paraître. Couper un arbre aujourd'hui en Grande-Bretagne, même pour l'environnement et même pour reconstituer la forêt relativement ouverte d'il y a 100 ou 150 ans, c'est quelque chose qui passe pas forcément très bien dans une grande partie de la population britannique. En l'occurrence, ici, c'est un article qui se rattache à la forêt d'Ashdown. C'est plus la forêt de Robin des Bois, c'est la forêt de Winnie l'ourson, comme on le voit dans le titre. Mais là encore, donc, les réouvertures de forêts et la restitution des paysages semi-ouverts a amené donc énormément de conflits et de tensions. Voilà, donc j'achèverai très rapidement en rappelant que cette question est très très importante aujourd'hui dans l'histoire du paysage, dans l'histoire de l'environnement aujourd'hui également, puisque à travers les travaux de Franz Werra par exemple et d'un grand nombre d'historiens de l'environnement, on sait aujourd'hui que les forêts très denses sont des créations humaines et qu'on n'a jamais eu de forêts extrêmement denses, même à l'époque de la fameuse Gaule chevelue, puisqu'il faut plutôt imaginer un paysage très ouvert, entretenu par le feu, parcouru par énormément de grands mammifères, et donc très certainement plus proche d'un paysage de parc. Donc c'est une problématique à la fois historique et qui se rattache à l'histoire de l'environnement.